19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, Sportrama, l'actualité du sport et notamment le mondial. Tout à l'heure, ce sera Bagassi Koura. Bienvenue Jean-Roger Billon. Libération au Soudan de la chrétienne condamnée à mort pour apostasie. Selon les avocats de Myriam Yahya Ibrahim Ishaq, les autorités judiciaires expliqueront demain les raisons de cette libération. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, cette femme de 27 ans avait écopé de la peine capitale pour son refus de renoncer à sa foi chrétienne pour l'islam. Elle avait aussi été condamnée pour adultère pour son mariage à un non-musulman. Un tribunal égyptien a condamné 3 journalistes d'Al Jazeera à 7 ans de prison pour avoir soutenu les frères musulmans, pour avoir diffusé de fausses nouvelles, une condamnation qui a créé un tollé dans le monde entier. Claire Morin-Gibou.
Le verdict est tombé ce lundi pour les 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera. Mohamed Fadel Fahmy, chef du bureau, son confrère australien Peter Grest, ont été condamnés à 7 ans de prison et leur collègue égyptien Baher Mohamed, lui, a écopé 10 ans de prison. Al Jazeera a toujours nié les accusations contre ses employés. Elle a qualifié le verdict de choquant et promet de continuer sa campagne intitulée « Le journalisme n'est pas un crime ». Cette condamnation est effrayante, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry depuis Bagdad. Navi Pillay, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, se dit choqué et très alarmé. Pour Amnesty International, c'est un jour noir pour la liberté de la presse en Égypte.
Fait en Afrique du Sud de la grève qui paralysait les principales mines de platine depuis 5 mois, les compagnies minières et les syndicats de mineurs sont parvenus aujourd'hui à un accord qui sera signé demain. Les mineurs retourneront au travail mercredi. Les compagnies Lomnin, Impala Platinum et Anglo American Platinum chiffrent à plusieurs milliards de dollars leur manque à gagner découlant de la longue grève.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et visite impromptue ce lundi du secrétaire d'État américain à Bagdad, John Kerry a rencontré de hauts dirigeants chiites du pays et les a exhortés à former un gouvernement élargi face à l'offensive des djihadistes sunnites qui ont pris de vastes territoires dans le nord et l'ouest de l'Irak. Jacques Aristide.
Réunion de plus d'une heure et demie du chef de la diplomatie américaine avec le premier ministre irakien et un important dignitaire religieux chiite, de même que deux dirigeants sunnites. C'était bien, c'est tout ce qu'a laissé entendre John Kerry en regagnant sa voiture. Quant au chef du gouvernement irakien, il a fait part au secrétaire d'État américain de ses craintes concernant l'avancée fulgurante des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Pour Nouri al-Maliki, elle représente une menace non seulement pour l'Irak, mais pour la paix régionale et internationale. Il a appelé à des frappes aériennes américaines contre les insurgés. Washington s'était dit prête à une action militaire ciblée précise en Irak, mais aucune décision n'a encore été prise. Les États-Unis n'ont pas appelé publiquement à la démission de M. Maliki, mais lui ont demandé à maintes reprises de former un gouvernement inclusif qui comprendrait davantage de sunnites et de kurdes.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont menacé la Russie de nouvelles sanctions en cas de non-respect du plan proposé par le président ukrainien pour mettre fin aux violences dans l'est de son pays. Moscou et Kiev ont entamé des pourparlers à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans une déclaration conjointe, les ministres de l'UE demandent au président Vladimir Poutine de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne. 10 membres de l'armée syrienne ont trouvé la mort cette nuit suite à des frappes israéliennes sur les hauteurs du Golan. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. L'ONG précise également que l'attaque a détruit 2 chars et 2 pièces d'artillerie. Selon des responsables israéliens, les frappes visaient des positions de tir et un quartier général de l'armée syrienne dans la région. Des cibles ont été atteintes, ont-ils ajouté. L'État hébreu réagissait ainsi à une attaque transfrontalière qui a tué un adolescent israélien dimanche. Et puis, l'agence onusienne chargée d'éliminer les armes chimiques de la Syrie annonce avoir reçu la dernière cargaison identifiée à cette fin. L'OIC a confirmé le départ ce lundi du port de Latakia du navire transportant le dernier stock d'armes chimiques. Selon le chef de l'organisation, il faudra 4 mois pour éliminer les 1300 tonnes déclarées par le gouvernement de Bachar al-Assad. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas, restez. Le sport, Sportrama, c'est maintenant Bagassi Koura et ses invités.
On
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama. Si vous voulez participer à l'émission, composez le 001 202 619 31 40. Je répète, 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir, nos consultants, Nicolas Pinault au Brésil, Jules Valentin Ngoué à Libreville, Salif Kabore à Ouagadougou, et ici Jean-Louis Ntang et moi-même Bagassi Koura. Plein feu sur la Coupe du Monde Brésil 2014. La phase de groupe tire à sa fin. Les Pays-Bas ont battu le Chili tout à l'heure 2-0. Un résultat qui permet aux joueurs de Luis Van Gaal de prendre la tête du groupe B, ce qui devrait leur permettre d'éviter certainement le Brésil en 8e dans le match des éliminés de ce même groupe. L'Espagne a battu l'Australie 3-0. Mais ce qui nous intéresse, et nous allons en parler longuement avec nos invités, c'est le Cameroun qui affronte tout à l'heure le Brésil dans la capitale, Brasilia. Dans des conditions normales, ça devrait être le match de ce premier tour. Hein, un grand choc attendu depuis des années de tous les sports, des fans de sport sur le continent, Cameroun-Brésil. Mais malheureusement, le Cameroun est déjà éliminé et va donc devoir jouer pour sauver l'honneur. Un match sans enjeu donc, puisque le Cameroun est éliminé. Nicolas Pinault, notre envoyé spécial au Brésil, nous fait le point.
Et oui, le coup d'envoi aura lieu tout à l'heure, à 17h, heure locale. Une rencontre très attendue. C'est le 100e match de la Seleção en Coupe du Monde. Un joli record. Et évidemment, les jaunes et bleus doivent l'emporter impérativement pour s'assurer une place en 8e de finale. Pour cela, ils feront face évidemment aux lieux indomptables qui ont cher à prouver, qui doivent redorer l'image. Évidemment, après les péripéties du match contre la Croatie, perdu 4-0, et surtout l'expulsion de Song qui a été suspendu pour 3 matchs, et les deux joueurs qui s'étaient battus en fin de rencontre, les Camerounais déjà éliminés n'ont plus rien à prouver, et c'est peut-être ça justement le danger pour les Brésiliens. Tomber sur une très forte équipe camerounaise qui pourrait leur donner du fil à retordre. L'enjeu de ce match pour les Brésiliens, c'est absolument garder la première place pour éviter les Pays-Bas.
Et est-ce qu'on sait si Samuel Eto'o sera aligné ce soir ?
C'est toujours l'incertitude, Bagassi. Hier, lors des 15 premières minutes de la séance d'entraînement au stade Mané Garrincha, il ne s'est pas entraîné, il est resté sur le banc de touche, a joué avec son téléphone portable. Alors, s'est-il entraîné par la suite ? On ne le sait pas puisque cette séance est fermée aux journalistes. En tout cas, c'est le mystère. Il y a quand même de fortes chances qu'il ne joue pas puisqu'il avait déjà été forfait, évidemment, lors du match contre la Croatie et on avait vu le naufrage que ça avait été. Alors, à l'inverse, peut-être que le joueur va vouloir jouer coûte que coûte malgré sa blessure au genou. On aura la réponse tout à l'heure, Bagassi.
Et puis, il y a aussi cette rencontre, hein, Mexique-Croatie. Si les Croates arrivent à battre le Mexique, ils pourraient même passer, hein?
Oui, tout à fait, Bagassi. Un malheur au vaincu dans ce match. Et on va évidemment penser au gardien fabuleux, le gardien mexicain Ochoa. Va-t-il réaliser la même performance que contre le Brésil ? Là encore, il va s'agir d'un match très serré puisque les deux équipes, en cas de victoire, peuvent se qualifier. Léger avantage néanmoins aux Mexicains qui pourraient se contenter d'un match nul pour passer le prochain tour. Mais ça va être un match spectaculaire dans ce duel à distance, évidemment, avec le Brésil.
Voilà, vous suivez Sporama sur La Voix de l'Amérique. Le temps d'accueillir Jules Valentin Ngoué, notre consultant en ligne de Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Bagassi Koura, bonsoir à tous.
Et nous avons aussi Salif Kabore à Ouagadougou. Bonsoir Salif.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Ouagadougou.
Et bien sûr, évidemment avec moi ici, Jean-Louis Ntang. Jean-Louis, qu'est-ce qu'il faudrait attendre de ce match tout à l'heure entre le Cameroun et le Brésil, puisque le Cameroun est déjà éliminé?
Alors, le Cameroun est déjà éliminé, effectivement, mais je pense que c'est le match de la rédemption pour l'équipe camerounaise. La sélection va vouloir, n'est-ce pas, sauver l'honneur en inscrivant au moins un point. Donc, on peut s'attendre à une forte équipe qui est dans son dernier recoin, qui aura besoin de sauver la face pour entrer au pays avec au moins un point ou au moins un but inscrit.
Oui, allez-y.
Parce qu'on note que la sélection camerounaise n'a pas marqué de but en Coupe du Monde depuis déjà 3 participations. On note aussi notamment que c'est la 4e rencontre entre le Cameroun et le Brésil. Et le Brésil a gagné les trois premières rencontres. Et la 4e dernière rencontre entre le Cameroun et le Brésil a été remportée par le Cameroun sur 1-0 marqué par Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui sera absent ce soir. Mais on espère que le manager Finke va faire jouer donc l'équipe avec des plus jeunes. On espère voir un Bejimo dans l'axe en défense derrière. On espère voir un Aboubakar au milieu. On espère voir Mukwanjo et Choupo-Moting. Donc, ça sera une équipe un peu plus différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sera beaucoup plus de jeunes du 109 et on espère que ça va faire la différence.
Oui, donc une équipe remaniée. Jules, c'est aussi votre avis?
Disons que pour le Cameroun, ça c'est un match référence. Donc, c'est un match qui est pris très au sérieux. Donc, je crois que il y aura peut-être des remaniements, certains remaniements, mais le statut de l'équipe va rester parce que il ne peut pas en pleine compétition comme ça changer toute l'équipe. Et je crois qu'en ce qui concerne la volonté des joueurs, elle devrait être intacte. Ils savent que c'est un joker qui sort pendant ce match.
Voilà, Salif, un mot sur ce match.
Oui, ça va être un match très difficile pour les Lions indomptables du Cameroun. Je crois que les Camerounais devraient peut-être faire l'essentiel au départ de cette compétition, c'est-à-dire qu'ils devraient essayer donc de stabiliser un peu le score et puis espérer contre le Brésil peut-être faire quelque chose. Mais cette fois-ci, ça devient quand même très compliqué, surtout que ça se joue face aux pays organisateurs, surtout qui, à Brasilia.
Et qui doit forcément gagner.
Du public pour la sélection, ça va être très difficile pour les Lions indomptables.
En plus, le Brésil doit forcément gagner ce match-là, ce qui évidemment complique la tâche des Lions indomptables. On va revenir sur ce match dans quelques instants, mais hier soir, les États-Unis ont fait jeu égal avec le Portugal, 2-2. Cristiano Ronaldo, donc la Belgique a battu la Russie 1-0 et l'Algérie qui a dominé la Corée 4-2. L'Algérie s'est bien donc relancée après cette première défaite contre la Belgique. Jean-Louis, vous avez vu ce match, hein, les États-Unis étaient une équipe assez exceptionnelle hier devant l'équipe portugaise.
Tout à fait. Les Américains ont fait preuve d'une certaine ténacité, d'une technique de jeu.
Oui.
On se rend compte que le programme du football américain est en train de prendre de l'ampleur. Même si le sport n'est toujours pas aussi populaire dans le pays, l'équipe est devenue de plus en plus forte. On a noté notamment, on a vu aussi le jeu au niveau de DMC qui s'est vraiment bien démarqué pendant toute la partie. Je déplore quand même la manière avec laquelle ils ont géré la dernière minute du temps additionnel dans la rencontre.
Ça montre quand même un certain manque d'expérience. Hein?
Je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est un certain manque d'expérience parce qu'au niveau de la dernière minute, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était contrôler la balle, perdre les dernières secondes pour s'assurer la victoire. Mais je pense que ce manque d'expérience donc, s'est fait ressentir au niveau des erreurs techniques qu'il y a eu vers la dernière minute.
Jules, votre point de vue là-dessus?
Oui, c'est un match très agréable que nous avons vu. Les États-Unis, depuis 2002, sont considérés comme une équipe performante. Vous vous rappelez que là, ils avaient atteint les quarts de finale et qu'en temps, pendant les dernières compétitions, en 2009, ils ont joué aussi la finale de la Coupe des Confédérations. Donc, c'est une équipe qui, généralement, ne ferme jamais le jeu et qui joue un peu à la hollandaise ou à l'allemande. Donc, qui est très, très tournée vers l'attaque et vraiment difficile à contenir. Si elle arrive à marquer la première, elle devient très dangereuse. Et je crois que les Portugais, dans une opposition de style, ont ressenti qu'ils avaient affaire à un adversaire de taille.
Alors, Salif, vous connaissez très bien l'équipe algérienne hein, qui a su se rattraper hier avec ses 4 buts marqués contre la Corée, qui se relance donc, qui a de très fortes chances de passer en 8e. Un mot sur cette équipe et cette attaque algérienne, Salif.
Oui, c'est une équipe algérienne. D'abord, après avoir perdu son premier match, voulait revenir coûte que coûte hein, dans la compétition et puis se mettre en pole position et espérer en tout cas obtenir par la suite son ticket pour les quarts de finale, les 8e de finale. Et vous avez vu que l'équipe algérienne elle n'est pas aussi forte qu'on le pense hein, parce que au moment où cette formation menait 3-0, on a vu quand même que...
Elle a baissé les bras.
La Corée est revenue entre temps et puis bon, stabiliser les choses, réussir même à inscrire des buts. Et je crois que ça n'a pas été du tout facile. C'est pour vous dire que même si jusqu'à présent l'Algérie a de fortes chances en tout cas pour passer au second tour, ce sera très difficile dans la mesure où on sait que dans ce groupe-là, des surprises peuvent survenir.
Voilà, vous suivez Sporama sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Bagassi Koura avec moi ici, Jean-Louis Ntang et en ligne de Ouagadougou, Salif Kabore, Jules Valentin Ngwe, qui est à Libreville. On va tout de suite prendre un de nos auditeurs. Il s'appelle Archiduc Théodore de N'Djamena. Bonsoir, Archiduc.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de Sporama et bonsoir à la VOA.
Voilà, on vous écoute.
Voilà, d'abord, moi, je commence par le Cameroun qui a laissé une honte à toute l'Afrique parce qu'on a espéré avec le Cameroun et finalement, le Cameroun c'est un jeu qui s'est fini vraiment par la violence. Et l'Algérie se remonte et donne une certaine expérience à l'Afrique. Par rapport au Ghana, il y a également de l'espoir. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont deux très bonnes équipes dynamiques qui peuvent faire quelque chose pour faire flotter les drapeaux africains. Donc, mais à ce que je sache, match Cameroun-Brésil, c'est connu d'office que le Cameroun va perdre. Et cette fois-ci, le Cameroun fait une sortie humiliante.
Donc, vous pensez que ce n'est pas possible que le Cameroun batte le Brésil ce soir?
Non, non, c'est impossible. Le Cameroun ne peut jamais battre le Brésil. Ça, c'est des rêves qu'on ne peut pas imaginer. Donc, la défaite du Cameroun est connue et je me rassure que le Cameroun va perdre.
Voilà, on attend aussi d'autres auditeurs, certainement, qui ne sont pas d'accord avec vous. Ils pourront appeler au 001-202-619-3140. Merci à Archiduc Théodore qui nous appelait de N'Djamena au Tchad. On va maintenant partir sur les matchs de samedi. Vous avez vu Iran-Argentine, 1-0, un but de Lionel Messi à la dernière minute. Hein.
Oui, très bon match aussi, très bonne résistance par l'équipe iranienne. Je pense que Lionel Messi, le but de la fin, c'était aussi un but de la rédemption pour lui parce que beaucoup de monde attendait une prestation vraiment pristine de la part de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs dans le monde. Pour lui de marquer, d'apporter cette victoire et ce soulagement au peuple argentin, je pense que c'est un grand acte, l'un dont on se rappellera dans cette Coupe du Monde.
Voilà, et puis aussi, dans le même groupe, Jules, il y a eu ce Nigeria qui a battu donc la Bosnie 1-0. Comment vous avez vu cette rencontre?
Le Nigeria a joué dans son registre habituel et l'a retrouvé et ses automatismes, parce que le Nigeria, c'est une équipe d'abord très collective. Et quand l'équipe évolue à une touche de balle, avec des accélérations en attaque et aussi surtout dans les couloirs, et le jeu est fluide. C'est ce que nous avons vu contre la Bosnie qui a eu aussi peut-être le mérite de ne pas trop muscler le jeu. Et donc finalement, les Nigériens se sont bien exprimés.
Voilà, et puis enfin, dans un match très enlevé, les Black Stars ont tenu tête aux Allemands. 2-2, on va revenir sur ce match dans quelques instants. Et c'est dommage que malgré ce beau but, ce beau football de toutes les équipes africaines, en dehors donc du Cameroun, le Ghana soit l'équipe qui a le moins de chances de passer. Hein. Et demain, la Côte d'Ivoire joue son dernier match contre la Grèce, donc les éléphants ont besoin d'une victoire pour éviter toute mauvaise surprise. Sur ce match, on écoute l'ancien buteur des éléphants et de l'ASEC Mimosa, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi.
La Côte d'Ivoire doit apprendre à jouer son propre jeu, sans complexe, pour pouvoir avoir gain de cause. Et puis je pense qu'on doit gagner plus en humilité aussi, beaucoup en humilité, pour pouvoir avancer. Je crois que déjà, le fait de se mettre dans la tête qu'ils font partie des meilleures équipes d'Afrique, déjà, je crois que ça gonfle un peu la tête, mais je crois que déjà, ils sont plusieurs la tête sur les épaules et aborder le match avec leur qualité, pas en fonction du jeu de l'adversaire. Le placement, il a été bon jusqu'à présent. Pour moi, Didier, c'est un joker de luxe. Qu'il continue, parce que je vois que les jeunes ont pour habitude de fatiguer la défense en premier mi-temps et Didier rentre après pour faire la différence. Il apporte son expérience et sa fraîcheur de rencontre. Je crois que déjà, c'est déjà bon. Pour moi, Wilfried Bonny, il fait ce qu'il a à faire en premier mi-temps et Didier vient terminer ce qu'il a commencé.
Voilà, c'était Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Salif Kabore, Salif, est-ce que la Grèce est une équipe prenable pour les éléphants que vous avez vu jouer lors des derniers deux matchs?
Non, la Grèce n'est véritablement pas un grand morceau pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est une opportunité que les Ivoiriens ont en face d'eux pour pouvoir donc se qualifier. D'aucuns pensent aujourd'hui que dans ce groupe-là, la Côte d'Ivoire, rien ne peut l'arrêter face à la Grèce, hein, parce qu'on a vu ces deux équipes-là évoluer, même lors de la dernière rencontre de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, elle a été battue, mais c'est dû à des incompréhensions, surtout au niveau de l'attaque, où la concordance n'y était pas, où les joueurs ne se parlaient pas beaucoup. Je pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, face à la Grèce, la faveur des pronostics, donc, tourne à l'avantage donc, des Ivoiriens. Et je crois aujourd'hui, il faut le dire, entre la Grèce et la Côte d'Ivoire, statistiquement même parlant, il n'y a pas match. C'est vrai, nous sommes en Coupe du Monde et nous avons vu le jeu de chacune de ces deux équipes. Et il est clair aujourd'hui que si la Côte d'Ivoire n'arrive pas à s'imposer devant la Grèce, ce serait véritablement un cataclysme.
Et aussi, souvent, il faut se méfier du manque de concentration. Et souvent, on donne les équipes africaines favorites, mais à un moment donné, elles n'arrivent pas à tenir leur concentration durant les 90 minutes. Et c'est là que souvent les problèmes surviennent. Jules, votre appréciation sur ce match Côte d'Ivoire-Grèce?
Oui, justement, il faut revenir sur cette concentration, cette fameuse concentration. Parce que la Grèce est un adversaire, une équipe piège. Ça, c'est un match piège. C'est une équipe qui, le plus souvent, aime jouer dominé et qui, ma foi, profite de quelques contres pour faire la différence. Elle aime endormir l'adversaire, lui laisser le ballon. Et si vous ne marquez pas avant les Grecs, en fin de compte, ils peuvent finir par trouver la faille et faire la différence et même continuer à jouer en contre pendant que l'équipe se livre encore. Donc attention, là, c'est la concentration totale face à cette équipe piège qui, ne l'oublions pas, est quand même un champion d'Europe.
Oui. Alors, Jean-Louis, pour revenir à vous, je parlais de ce match 2-2 entre l'Allemagne et le Ghana. Comment vous avez vu cette rencontre?
Alors, rencontre pleine et riche d'émotions. Je pense que c'était l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Je suis assez satisfait par la performance du Ghana. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas pu remporter leur première rencontre et s'assurer leurs 3 points. Je pense que de tous les matchs qu'on a vus du Ghana, les Black Stars ont toujours donné du meilleur d'eux-mêmes. Ils ont toujours fait rester fidèles à leur jeu. C'était juste un problème de finition en termes du match contre les États-Unis.
Oui.
Au niveau du match contre l'Allemagne, je pense qu'il y a eu une légère perte de concentration dans la deuxième mi-temps qui a fait en sorte qu'ils ont pris donc ces buts de l'Allemagne. Mais c'était un match qu'ils avaient à leur portée.
Alors, Jules, comment vous voyez donc Ghana-Portugal? Parce que ce groupe de la mort a quand même répondu à toutes les attentes. Hein?
Oui, il faut le dire. Ça, c'est un groupe vraiment très relevé. Et le Ghana aura à cœur, comme d'habitude, à nous offrir, donner le meilleur de lui-même contre le Portugal, qui est aussi une équipe qui cherchera à sortir par la grande porte, mais au cas où cette équipe devrait sortir. Donc nous avons affaire à, disons que nous avons en vue déjà une rencontre très spectaculaire, très animée et sûrement très offensive. Donc je crois que après cela, on verra seulement, disons que on fera un calcul d'épicier à la fin de la rencontre pour savoir qui est qualifié.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à-côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Et vous êtes à l'écoute de Sporama sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons Coupe du Monde. Et vous savez, on avait beaucoup dit de l'organisation et du Brésil qui n'étaient pas prêts, sans oublier bien sûr les manifs dans les rues. Qu'en est-il finalement? Alioune Siss est un Sénégalais qui vit en Suisse. Il est au Brésil pour supporter l'équipe suisse. Il nous donne ses impressions sur ce mondial brésilien.
Les choses se passent extrêmement bien. Les stades sont plus que prêts. Nous n'avons pas, personnellement, je n'ai pas remarqué en fait, de retard dans tout ce qui est l'organisation, la construction des stades. Et en ce qui concerne, je pense, les manifestations, les problèmes sociaux qui sont réels au Brésil, je pense que l'hospitalité légendaire du Brésil et du peuple brésilien ont fait qu'ils ont mis tous les efforts pour accueillir les milliers de personnes qui sont venues voir cet événement. Je crois que l'accueil est exceptionnel, ambiance magnifique.
Le fait que le Brésil est un pays de foot, est-ce qu'on sent cette différence avec Corée-Japon en 2002 où vous avez été?
Tout à fait, je crois que c'est totalement différent. Les gens vivent le football ici, c'est un plaisir. Dans certains pays, on sent beaucoup de violence, beaucoup de passion dans le football, alors qu'ici, vraiment, on sent l'amour du football et c'est tout simplement magnifique.
Alors, vous avez vu les équipes africaines, hein, elles sont 5 et pour l'instant, le Cameroun est la seule équipe éliminée. Ouais. Comment vous avez vu ces équipes africaines?
Je pense que le début, les premiers matchs ont été difficiles pour l'ensemble des équipes, en fait. Il y avait une période de mise en chauffe. Et je pense qu'il y a 4 équipes, comme vous l'avez bien dit, qui sont en train de nous montrer de grandes choses. Je pense que autant le Ghana, que l'Algérie, que la Côte d'Ivoire ont des chances réelles, en fait, hein, d'aller plus loin dans la compétition. Et je crois que ça va faire beaucoup de bien aux équipes africaines. Avoir 3 équipes au moins au stade des 8e de finale serait vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Vous supportez la Suisse, hein, et vous avez vu France-Suisse. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la forme de cette équipe française? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à la finale, peut-être prendre la coupe?
Je pense que cette équipe française est la meilleure qu'il y a eu depuis très très longtemps. Je pense qu'elle a la capacité et la joie de vivre pour pouvoir aller très loin dans la compétition. Personnellement, je verrais bien, pour des raisons personnelles, j'aimerais bien le Brésil gagner cette Coupe du Monde, mais j'aimerais bien voir une finale Brésil-France ou quelque chose comme ça. Ce serait très très bien.
Ce sera comme en 98?
Comme en 98 avec une victoire du Brésil cette fois-ci.
Voilà, c'était donc Alioune Cisse, un Sénégalais supporter de l'équipe suisse. Et puis les équipes africaines ont eu donc des fortunes diverses, comme on le disait depuis. Le Cameroun est déjà éliminé. Un commentateur américain a même parlé de mauvaise équipe du tournoi en raison des actes anti-jeu. Nous avons recueilli les impressions de Djibril Dramé, il est ancien entraîneur du Stade malien.
J'ai vu pratiquement les 5 équipes africaines. À la date d'aujourd'hui, les équipes qui m'ont vraiment impressionné, ça c'est d'abord la Côte d'Ivoire depuis sa première sortie. Et la Côte d'Ivoire a montré quand même vraiment, elle est venue quand même pour faire quelque chose à ce niveau. Après la Côte d'Ivoire, j'ai vu aussi l'Algérie qui m'a donné une très belle impression. L'autre jour contre la Corée du Sud.
La Corée du Sud.
On a vu une grande équipe, voilà, on a vu une grande équipe algérienne qui pratiquement, du point de vue qualité de jeu, a produit un jeu quand même d'un niveau très, 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 très élevé. Et ensuite, après la Côte d'Ivoire, j'ai vu le Ghana aussi contre l'Allemagne. Il faut le voir que le Ghana, sa première sortie, ça n'a pas été comme ça. Mais à la deuxième sortie, on a vu quand même une grande équipe ghanéenne.
Alors, vous savez, vous êtes technicien, il y a cette polémique un peu en Côte d'Ivoire où les gens disent pourquoi l'entraîneur continue de laisser Didier Drogba sur le banc. Et demain, la Côte d'Ivoire joue contre la Grèce. Si vous étiez à la place de Sabri Lamouchi, est-ce que Didier Drogba devrait entrer dès le début du match?
Vous savez, chaque entraîneur a sa stratégie de jeu. Vous savez, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux aller. Et à la première sortie, je pense qu'il a adopté la même stratégie et ça a beaucoup marché. Et pourquoi en freine cela? Pour quelle raison? Pour quel objectif? Drogba, qu'il joue en première position, qu'il joue en deuxième position. Si jamais c'est en deuxième position, ça peut profiter à l'équipe mieux qu'en première mi-temps. Pourquoi ne pas continuer sur cette stratégie? Pour quelle raison il va changer ça? En le mettant en première position, peut-être, vu son âge, vu le nombre d'années de pratique, vu que Drogba est presque à la sortie, est-ce qu'il pourra tenir le coup? Et en le mettant au banc de tout, ça peut être une stratégie. L'adversaire, sachant bien que ce monsieur-là est petit de qualité, il ne peut pas jouer dans un match sans pourtant marquer. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui, au moment où on va le solliciter pour venir jouer, ça peut réellement peser sur une défense qui est presque fatiguée.
Voilà, c'était donc Djibril Dramé. Il est l'ancien entraîneur du Stade malien à Bamako. Et pour terminer, il faut dire que le Cameroun donc est éliminé, l'Espagne et l'Australie sont également éliminés, ainsi que la Bosnie-Herzégovine et l'Angleterre. On attend donc ce match Cameroun-Brésil pour voir qui va l'emporter. Et Jean-Louis Ntang, votre pronostic?
Alors, ça sera un match très serré. Je pense que ça sera soit une victoire du Cameroun 1-0, soit une victoire du Brésil 2.
Voilà, et il y a cette banque américaine ici, hein, Goldman Sachs, qui avait donné ses pronostics parlant de 5-0 Cameroun-Brésil. On verra bien. Voilà, ainsi s'achève notre émission Sporama du jour. Merci à Jules Lungwe à Libreville au Gabon, Salif Kabore à Ouagadougou et Jean-Louis Ntang ici avec nous. Merci Jean-Louis.
Merci, bonne soirée.
Et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Sporama.